franceinter.fr.
C'est le journal de Philippe Habitboul. Bonjour Philippe.
Bonjour Stéphane. La suite d'Agora, 13h20. Bonjour à toutes et à tous. 1er mai sur tous les fronts, front syndical avec CFDT ce matin, CGT Force Ouvrière, ce sera cet après-midi à Paris entre Bastille et Nation. Pour éviter toute nouvelle violence, les consignes de sécurité ont été revues à la hausse. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, l'a dit au préfet. 1er mai sur tous les fronts, y compris Front National, avec ce matin un double hommage à Jeanne d'Arc, celui de Jean-Marie et celui de Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui met en garde sa fille contre un risque de défaite à la présidentielle l'an prochain sans unité frontiste. Front syndical, Front National et aussi Front populaire. 1936-2016, c'était il y a 80 ans. Nous en parlerons avec l'historien Roger Martelly. Il sera l'invité de ce journal. 1er mai, jour férié, alors pourquoi pas se laisser tenter par la foire de Paris? Nous y ferons un petit tour. Et si vous êtes sur Marseille, à ne pas rater l'expo Picasso au Mucem. Enfin, le temps, là, le front frais est toujours présent avec une majorité de gris, mais le soleil va revenir progressivement.
Inter.
1er mai, fête du travail, et cette année, c'est aussi, on peut le dire, la fête de la loi travail. Le projet de réforme El Khomri sera examiné à partir de mardi à l'Assemblée, mais la réforme était aussi ce matin en vedette sur les banderoles dans les premiers défilés en région, à Marseille comme à Toulouse. Vous y étiez, Stéphane Iglesis.
Manifestation tranquille, familiale et déterminée aujourd'hui dans les rues de la Ville Rose, avec une participation plus modeste que jeudi dernier. Retrait total, voilà le slogan qui apparaît le plus souvent sur les pancartes syndicales. De nombreux manifestants, n'oublions pas non plus le symbole de cette fête du travail. Pierre n'est pas d'accord avec tous les manifestants, mais il est venu protester.
Je ne suis pas forcément d'accord avec tous les gens qui sont ici, mais voilà, c'est le 1er mai, c'est un jour symbolique dans le monde entier, qui rappelle depuis plus de 100 ans les luttes pour plus d'émancipation, pour la défense des droits de l'homme, pour la défense du droit du travail, pour la défense des droits culturels, pour que nous puissions vivre tout simplement avec plus de liberté, d'égalité et de fraternité.
Si comme en 2003 ou en 2008 le gouvernement n'écoute pas, les choses peuvent dégénérer. C'est l'avis de Jean-Philippe Gadier, co-secrétaire du SNUIPP 31.
Il y a une partie de la violence qui est sociétale, qui est légale, on va dire, qui est subie par des millions de gens aujourd'hui. Et puis, il y a une partie de la violence que je ne soutiens pas, parce qu'elle est stérile, parce qu'à mon avis, briser des vitrines ou s'affronter aux forces de l'ordre, c'est se tromper de combat. Mais il faut comprendre d'où ça vient.
La priorité des manifestants, c'est de continuer à marteler qu'en dehors du retrait total, il n'y a pas de solution alternative. Apparemment, entre les syndicats protestataires et le gouvernement, c'est un vrai dialogue de sourds. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
En ce 1er mai, les syndicats réformistes ne seront pas dans le cortège de l'après-midi. Ils ont opté pour un rassemblement militant et des tables rondes avec la CFDT, la CFTC, la FAGE et l'UNSA, à la fois sur la loi travail, mais aussi sur la question des réfugiés. La CFDT prend donc ses distances avec les centrales contestataires. Il est vrai que depuis 2013, CFDT et CGT ne défilent plus ensemble, reconnaît Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT avec Bruce de Galzin.
Le pluralisme syndical, il fait qu'il y a parfois des opinions différentes, et quand nous sommes d'accord ensemble, nous manifestons ensemble, et lorsque nous avons des désaccords, ce qui est absolument normal dans une démocratie, ben nous ne sommes pas ensemble. C'est pas un problème en soi, il y a aussi des initiatives professionnelles où il y a une unité syndicale. Ce qu'il faut, vous savez, le syndicalisme, il a une exigence aujourd'hui, c'est d'être utile aux salariés. Et pour être utile aux salariés, il faut évidemment s'opposer, parfois, mais il faut aussi savoir proposer. Et savoir proposer, ça veut dire porter des revendications communes. C'est ce que nous faisons avec la CFTC et l'UNSA et la FAGE, par exemple, sur la loi travail. Nous ne le portons pas avec d'autres, ben, c'est un fait. On va pas commenter pendant des mois et des mois une division syndicale que je regrette d'une certaine manière, mais je vais pas faire mine. C'est-à-dire que la CFDT, elle porte des ambitions, elle porte des propositions, elle porte un projet pour la société. Eh bien, nous essayons de le faire vivre à notre manière.
Aujourd'hui, plus que jamais, la centrale de Laurent Berger joue la carte de la réforme, car le projet de loi El Khomri est porteur de progrès pour les travailleurs, ajoute Laurent Berger. Alors voilà pour les cortèges de la matinée. Cet après-midi, ce sera donc à Paris entre Bastille et Nation. Soudés dans leur refus du projet de loi travail, Force ouvrière et CGT vont défiler ensemble pour la première fois depuis 2009. Reste le problème de la sécurité, car ils étaient entre 15 000 et 60 000 personnes jeudi dernier dans la capitale pour réclamer le retrait du projet de réforme du travail. Avec les dérapages et les violences que l'on sait, 214 interpellations, 78 policiers blessés. On doit y ajouter aussi ce jeune étudiant qui a perdu l'usage d'un œil à Rennes. Cette fois, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a donné au préfet des consignes très strictes pour éviter tout débordement, Emmanuel Leclerc.
Les ordres donnés au préfet par Bernard Cazeneuve concernent à la fois les organisateurs des manifestations et les patrons de la sécurité publique. Chez les CRS, les gardes mobiles, les gendarmes et les policiers de commissariat appelés en renfort mais pas forcément toujours bien équipés et formés pour gérer des scènes de guérilla urbaine. Le ministre de l'Intérieur et ses services ont en tête les images d'interventions à coups de matraque dans le dos pour faire évacuer des lieux où les casseurs, les vrais casseurs, étaient déjà partis. Et puis, il y a l'usage des flashballs et des grenades de désencerclement. Ou encore l'envoi risqué de policiers en civil pour tenter d'interpeller les casseurs, ceux qui jettent des pavés sur les forces de l'ordre. D'un côté donc, des consignes pour un usage légitime de la force, même après une pluie de projectiles. De l'autre, mettre la pression sur les organisateurs des cortèges pour isoler les casseurs et obtenir les bons renseignements en temps réel.
Et les premières sanctions sont tombées à Paris. Première peine de prison ferme prononcée pour les violences contre les policiers. Deux jeunes de 22 et 30 ans ont été condamnés à 6 et 8 mois de prison ferme pour les violences commises durant la mobilisation contre la loi travail et en marche de Nuit debout. 1936-2016, il y a 80 ans, naissait le Front populaire. Nous allons en reparler dans quelques instants. Mais il y a aussi, en cette journée de 1er mai, le Front national. Front national, Front familial, Front des unis. Avec ce dimanche, un Jean-Marie Le Pen qui rendait hommage ce matin à Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. Et Marine Le Pen, pas très loin d'ailleurs, place Saint-Augustin. Un front, deux têtes, Aurélien Colli.
Oui Philippe, ça c'est ce dont rêve aujourd'hui Jean-Marie Le Pen, qui n'a cessé d'appeler à l'unité dans son discours ce matin, une demi-heure, sans cogner sur sa fille et en estimant que c'est la condition sine qua non pour une victoire en 2017.
Il est un mot-clé pour l'indispensable victoire, unité. Unité du Front National, fer de lance du combat national. Unité aussi du courant national dans ses diversités. Nous avons appelé Jeanne au secours, elle nous répond « Aide-toi et le ciel t'aidera ».
Alors face à Jean-Marie Le Pen, plus la foule des grands jours, rien à voir avec les premiers mai de ces dernières années, seulement quelques centaines d'irréductibles, nostalgiques de la guerre d'Algérie, royalistes d'Action française, catholiques traditionnalistes ou nationalistes sans concession comme Jérôme Bourbon, directeur de la revue Rivarol.
Le Front National a complètement changé, on ne s'y reconnaît pas. J'ai toujours dit que Marine Le Pen était une femme de gauche, et je le pense profondément. C'est une trahison de ce qu'a été le Front National, canal historique.
Autre ambiance une heure plus tard, place Saint-Augustin. Le bureau politique et les élus du FN célèbrent Jeanne d'Arc, dépôt de gerbes, cérémonie rapide et sobre. Pas un mot de Marine Le Pen, mais son entourage est très clair. Pas question de réconciliation avec Jean-Marie Le Pen. Les cadres avaient même interdiction d'aller à sa manifestation. Bruno Gollnisch y est allé. Réponse de Gilbert Collard.
À mon avis, moi je dirais Bruno, il y a une règle qui a été posée, tu l'as délibérément violée, tire-en les conséquences. Voilà, qu'est-ce que je vous dise d'autre, hein. La règle est posée, à partir du moment où elle est transgressée, il faut accepter d'en tirer les conclusions.
Deux têtes, deux fronts donc, et celui de Marine Le Pen se retrouve tout à l'heure à la Villette, banquet populaire, grand discours de Marine Le Pen devant des milliers de personnes.
Aurélien Colli, merci. Front populaire, 80e anniversaire, invité de ce journal, l'historien Roger Martelly, historien et spécialiste du communisme, longtemps membre d'ailleurs de la direction du Parti communiste français. Bonjour Roger Martelly.
Bonjour.
Roger Martelly, il faut le savoir, ce n'est pas en France qu'est née la fête internationale du travail, mais aux États-Unis.
Ah, c'est né aux États-Unis, effectivement, à la fin des années 1880, des grèves ont eu lieu le 1er mai, notamment en 1886, qui se sont traduites par des affrontements violents, des morts, et en 1889, la Seconde Internationale Socialiste a décidé, sur proposition française, parce que c'était à Paris que se tenait la réunion, de faire du 1er mai, chaque année, un grand rendez-vous mondial du mouvement ouvrier, de la lutte ouvrière. Et donc depuis 1889, en fait depuis 1890 pour la première fois, les travailleurs du monde entier fêtent le travail le 1er mai, se rassemblent, manifestent et affirment la nécessité de voir respecter leurs droits. Les premiers 1er mai étaient extrêmement violents, ça n'est plus le cas, évidemment, depuis longtemps.
Alors, en mai 1936, Roger Martelly, arrive le Front populaire, le premier gouvernement socialiste, Troisième République. Et ces acquis de l'époque du Front populaire sont toujours d'actualité, les congés payés, la semaine de 40 heures.
Ah, ben, la conjonction à l'époque du combat antifasciste, de la lutte ouvrière, a fait entrer la France dans une république beaucoup plus sociale qu'elle n'était auparavant. Effectivement, il y a eu les congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collective, mais il y a aussi la reconnaissance de la liberté syndicale, la création des délégués d'entreprise et des augmentations de salaire. C'était un grand moment de l'histoire ouvrière. C'est la première fois, au fond, que la classe ouvrière est reconnue véritablement, entre dans la cité. Jusqu'alors, les ouvriers, c'était un peu les barbares qui campaient à la porte de la cité. On disait à l'époque classe laborieuse, classe dangereuse. On a dit ça pendant longtemps. En 1936, le monde ouvrier est enfin reconnu. J'allais dire, c'est évidemment d'autant plus intéressant que aujourd'hui, depuis quelques années, ces grands acquis, petit à petit, se sont trouvés érodés.
J'allais justement vous poser la question, Roger Martelly, que reste-t-il des grandes mesures sociales de l'époque ?
Le problème, c'est que si l'on continue dans le sens où l'on va depuis maintenant quelques décennies, depuis maintenant une trentaine d'années, il risque de ne plus rester grand-chose de l'acquis du Front populaire, d'autant plus que cet acquis, vous le savez, a été prolongé à la Libération. Et donc, nous entrons dans une phase où la stabilité des statuts, la reconnaissance des statuts, l'idée selon laquelle la protection du travail et la condition première de l'efficacité et de l'équilibre de la société est en train d'être remise en question par la logique de la flexibilité, de la précarisation qui tourne radicalement le dos à ce qu'était la République sociale installée par le Front populaire et la Libération.
Roger Martelly, il y a aussi un élément nouveau, c'est la crise qui est devenue un outil pour gouverner, le pouvoir d'ailleurs s'en sert pour gommer des acquis ou les modifier.
Bien sûr, et alors que j'ai tendance à penser, un peu comme c'était le cas dans les années 30, au fond, l'entrée dans une république plus sociale, l'entrée dans l'ère du droit du travail a permis de sortir de la crise. J'ai tendance à penser que, contrairement à ce que l'on dit souvent aujourd'hui, ce n'est pas l'instabilité, ce n'est pas la précarité qui crée de l'efficacité, qui crée de la dynamique, mais ça devrait être au contraire le partage, la solidarité, la stabilisation des conditions du travail. Moi, je crois que on devrait, au fond, aujourd'hui, tirer les conséquences de ce qu'était l'expérience des années 30. C'est la valorisation du social qui est la clé d'une dynamique économique et, bien entendu, d'un véritable équilibre social.
Roger Martelly, je vous remercie. L'historien Roger Martelly, invité du 13h de France Inter.
Philippe Habiboul. Inter-13.
Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères français, et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier sont attendus aujourd'hui au Mali. Le Mali, où les djihadistes ont été en grande partie chassés par l'intervention militaire internationale lancée par la France en janvier 2013. Mais il y a des zones entières qui échappent encore au contrôle des forces internationales et maliennes. David Bachet.
Cette visite conjointe vise d'abord à afficher l'engagement de la France et de l'Allemagne dans le processus de paix malien. La mise en œuvre de l'accord signé en juin dernier progresse, mais de façon très laborieuse, et c'est ce dont les deux ministres discuteront avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et avec l'ensemble des parties signataires de l'accord, dont les groupes armés du Nord. Jean-Marc Ayrault et Frank-Walter Steinmeier se rendront également à Gao, dans le Nord, pour rencontrer les soldats de la force française Barkhane, ainsi que les militaires allemands intégrés à la mission onusienne dans le pays et dont le nombre a récemment été augmenté par Berlin. Et ce, alors que la présence des forces internationales est de plus en plus critiquée par une partie de l'opinion malienne. Il y a deux semaines, une manifestation anti-Barkhane à Kidal a dégénéré. Les manifestants ont saccagé l'aérodrome gardé par les casques bleus. Bilan, 2 morts et une enquête en cours au sein de la mission onusienne. David Bachet, Bamako, RFI pour France Inter.
La Syrie à la veille de l'arrivée de John Kerry, le secrétaire d'État américain à Genève, pour des entretiens d'urgence sur le conflit. Washington réclame la fin des bombardements sur Alep. Le cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 février a bien du mal, il est vrai, à résister aux raids aériens meurtriers du régime de Bachar el-Assad. Les sports, le football, suite et fin de la 36e journée de Ligue 1. L'OM joue gros cet après-midi. Les Marseillais se déplacent à Angers, mais sans leurs supporters. L'OM qui a pour mission, bien sûr, d'assurer son maintien si possible la saison prochaine au sein de l'élite, Tony Cellier.
Ils ne mettent plus un pied devant l'autre depuis des mois, mais ils ont au moins le mérite de la lucidité. Les joueurs marseillais ne se cherchent aucune excuse. Si l'OM n'est toujours pas assuré de son maintien à seulement 3 journées de la fin du championnat, c'est bien de leur faute. Le défenseur Nicolas Nkoulou.
C'est pas digne du club. Pour nous aujourd'hui, c'est une honte. C'est difficile, mais il faut faire face, il faut continuer.
Alors, quelle promesse maintenant? Quelle recette surtout pour monter la dernière marche, assurer le maintien? Les bonnes vieilles valeurs, a écouté l'entraîneur Franck Passy.
C'est être fier de porter ce maillot, travailler pour un club et pour tous les gens qui travaillent dedans, et puis mettre un peu des valeurs morales, un peu plus.
Trois matchs en championnat pour assurer l'essentiel, avant peut-être, enfin, une éclaircie, la finale de Coupe de France contre le PSG. Mais la priorité est donc très claire pour tout le monde.
Parce que l'essentiel, c'est de sauver le club. La finale, c'est bien beau, ça fait plaisir, on l'attend tous, mais l'essentiel, c'est de sauver le club.
Sauver l'honneur, honneur des joueurs, d'un club et de ses supporters. Voilà à quoi l'OM en est réduit, le minimum vital, avant d'espérer renaître de ses cendres la saison prochaine.
Angers-OM, coup d'envoi à 17h à suivre en direct chez nos amis de France Info. À la Foire de Paris, certains la qualifieront sans doute d'économie circulaire ou d'art de la récup, en tout cas dans les allées de la Porte de Versailles. Des créateurs proposent des nouveaux produits élaborés avec des matières qui terminent le plus souvent à la poubelle. Des créateurs qui détournent tous ces produits de notre quotidien. Et la formule, on la connaît, Philippe Lefrèvre, c'est celle de Lavoisier.
Rien ne se perd, tout se transforme et la créativité dans ce domaine ne semble pas avoir de limite. C'est le cas pour Jasmina Legros, une jeune ingénieure chimiste guadeloupéenne qui a créé une gamme de produits cosmétiques à base de résidus de noix de coco et de marc de café.
C'était jeté avant. Le marc de café, c'est vrai qu'ils avaient des kilos et des kilos jetés par mois. C'est vrai qu'on peut en mettre un petit peu dans les plantes, ça fait un peu d'engrais. Mais la quantité de café qui est produit en Guadeloupe pour la consommation, dégustation, ça aurait été dommage de laisser ça dans la nature et ne rien en faire. J'ai fait un beurre végétal nettoyant qui va apporter une couche d'hydratation. J'ai un sérum, un gel qui va se transformer en crème mélangée à l'eau.
Des produits qui désormais voyagent bien loin des Caraïbes puisqu'elles livrent des clientes en Chine ou en Malaisie. Et à quelques stands de là, Édouard Dormois lui propose des ceintures d'avion. Mais pas pour s'accrocher au siège au moment du décollage, non, elles servent à tenir les pantalons.
Par rapport à la vraie ceinture d'avion, donc celle que vous avez dans tous les avions du monde, elle est plus légère, de 35%. Celle que j'ai est beaucoup plus ajustable, beaucoup plus malléable. Et ensuite, la sangle est d'un seul tenant.
Et ultime clin d'œil, ces ceintures pourraient être très bientôt vendues sur les lignes d'une compagnie aérienne française.
Picasso au Mucem à Marseille, au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. L'expo s'intitule Picasso et les arts et traditions populaires. Elle présente des facettes peu ou pas connues de l'artiste. On y découvre en effet un Picasso marqué par son environnement, l'Espagne de son enfance, le cirque, les costumes régionaux, ses enfants ou encore la musique. Il s'exprime également, bien entendu, par ses tableaux, mais n'hésite pas à exploiter d'autres supports, Isabelle Dor.
Picasso, sculpteur sur bois, sur plâtre, sur bronze, Picasso, céramiste, Picasso, orfèvre, Picasso, colombophile, Picasso, linograveur, se touche à tout, a même dessiné des tapis et fabriqué des figurines pour ses enfants. Cette exposition balaie tous les champs de travail de l'artiste, plus de 250 œuvres, dans tous les matériaux possibles et de nombreux tableaux inédits. Émilie Girard, la commissaire de l'expo.
Il y a certaines pièces de collections particulières qui ne sont jamais sorties des collections particulières en question. Vous avez des portraits de Torero des années 70 qui viennent de collections privées qu'on n'a jamais vues. Vous avez bien sûr le grand acrobate bleu qui est un des chefs-d'œuvre. Il y a des œuvres qui viennent de l'étranger et qui n'ont jamais mis un pied en Europe. Je pense au petit tableau La Petite Corrida qui vient du musée d'Israël. Les deux tauromachies aussi qu'on voit en introduction de la section sur la corrida qui sont des œuvres inédites. Ces cinq grands plats par exemple en fonte simèse sont assez fabuleux. On découvre une force inédite du travail de Picasso. C'était un ogre qui touchait à tout, qui apprenait de tout et qui allait ainsi brosser une œuvre gigantesque.
Deux curiosités à ne pas manquer dans cette expo. Le premier tableau de Picasso, intitulé « Le petit Picador », il avait 8 ans quand il l'a réalisé. Et puis une œuvre de son père, peintre naturaliste, qui a vite compris que son fils était plus doué que lui. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Et maintenant, l'expo météo.
Cet après-midi, le temps va rester gris et pluvieux sur l'Auvergne et de Rhône-Alpes à la Bourgogne, parfois menaçant avec des averses orageuses de la Provence à la Corse et en fin d'après-midi sur l'Alsace. Le Mistral et la Tramontane vont rester violents. Sur la Bretagne, le temps de plus en plus gris pourra s'accompagner de pluies faibles, tandis que des Pays de la Loire au bassin parisien, de la Normandie à la frontière belge, sur le centre, le Limousin et des Charentes au sud-ouest, le soleil va l'emporter, avec une moyenne de 15 degrés cet après-midi à Lille, Paris, Rennes, Guéret, Cognac, Strasbourg et Agen. Il fera 16 à Perpignan, 17 à Nice, 19 à Ajaccio, mais pas plus de 10 degrés à Lyon, Dijon, Besançon et Clermont-Ferrand. Demain, dans une ambiance partout plus douce, le temps sera mitigé au nord de la Loire, avec parfois un peu de pluie sur les côtes. La Corse va conserver un temps instable et orageux. De l'Auvergne à Rhône-Alpes, après une matinée maussade, le ciel va s'éclaircir. Sur les autres régions, le soleil va briller, mais avec toujours beaucoup de vent près de la Méditerranée.